Radio Campus Tour, 99.5 FM.
Le Dahu.
Le Dahu.
Le Dahu.
Le Dahu.
Le Dahu.
Le Dahu.
Le Dahu à flanc de culture.
Dans ce pays, l'impossible est possible et le possible impossible.
La citation est du poète L'Hérisson. Et vous l'aurez compris, le Dahu vous emmène en voyage dans une île lointaine. Cette île, c'est Haïti. La première partie de cette émission était consacrée à trois auteurs haïtiens. En effet, Magali Renouf nous présentait le romancero Aux étoiles de Jacques-Stéphane Alexis. Guillaume Singal s'intéressait quant à lui à Franck Etienne et Yannick Lahens présentait Bain de Lune, pour lequel elle a reçu le prix Femina. Vous pouvez retrouver cette première partie d'émission sur le SoundCloud de Radio Campus Tour. Deuxième partie consacrée au trait commun entre ces trois écritures et à ce qu'elles nous disent d'Haïti et de la littérature aujourd'hui. Le Dahu vous souhaite un bon voyage.
Adieu, moi fais magie à marcher. Et s'il y a ta prête pour l'être pour moi là, moi fais magie à marcher.
Le Dahu vous emmène à la découverte de l'œuvre de trois auteurs haïtiens, Jacques-Stéphane Alexis, Franck Etienne et Yannick Lahens. Chez ces trois auteurs, on note un jeu sur les polices de caractère et la naissance d'une langue métissée, à la fois française et créole. Une langue haïtienne. Et alors, cette littérature est-elle française, francophone ou haïtienne? Yannick Lahens, Magali Renouf et Guillaume Singal s'expriment sur ces sujets. Police de caractère, polyphonie. C'est un roman de la polyphonie.
Il y a un cœur qui parle, parce que c'est le village qui parle.
Yannick Lahens.
C'est pas seulement une famille. Quand je dis que c'est le village, c'est toute la famille élargie, puisque toute la famille vit dans le même espace. Et donc, il fallait cette voix collective qui porte le message, les événements, voilà. Il y a une voix quand même singulière qui ponctue le récit et qui va aller jusqu'à la fin, mais l'essentiel est porté aussi par ce village qui parle, qui se raconte. En fait, c'est le village qui se raconte.
D'ailleurs, elle est même visuelle, enfin, ses voix sont visuelles, puisque vous avez choisi l'italique dans certains cas.
Justement, pour quand même faciliter le passage d'une voix, enfin, d'un type de récit à l'autre. Effectivement, c'est visuel, donc ça permet de mieux comprendre. En fait, c'est une succession d'événements et tout va vraiment s'éclairer à la fin du roman, donc. Je ne peux pas dire davantage parce que sinon, voilà, on déflorerait le mystère.
Magali Renouf, Jacques-Stéphane Alexis.
Quand on est dans les intermèdes, donc puisque entre chaque nouvelle, on a un petit dialogue entre les deux, le vieux vent caraïbe et le neveu, quand ils sont tous les deux en train de discuter, c'est en italique. Donc ça oppose les deux regards et ils expliquent pourquoi ils ont choisi tel texte ou ils essayent de se défendre. Parce que des fois, le vieux vent caraïbe accuse un peu son neveu. Il dit « Mais pourquoi t'as choisi ce texte? Ça n'a strictement rien d'intéressant. » Il lui dit « Oui, mais tu m'avais demandé, justement pour les chroniques d'un faux amour, tu m'avais demandé un texte qui relate une histoire d'amour. Donc c'est un amour moderne, c'est tout. » Et donc ils se défendent, ils s'accusent, ils s'expliquent aussi.
Et donc ça, cette discussion à deux voix, c'est en italique,
c'est ça, oui. Donc toujours entre deux récits, ce qui permet aussi de savoir qui est le conteur en fait. Bon, on devine un peu quand on lit les textes qu'il y a des résonances plus modernes et plus traditionnelles. Mais c'est vrai que sur le plan stylistique, sinon les textes sont tous écrits par Jacques-Stéphane Alexis, donc il n'y a pas de différence notable. Donc en fait, il y a beaucoup de jeux sur la typographie. mais même à l'intérieur, parce que des fois, il y a des textes en capital. Énormément de jeux sur la graphie, sur la mise en page, ça c'est sûr.
Ce que j'aime beaucoup dans ce texte-là par rapport à d'autres textes de Franck Etienne,
Guillaume Singel,
c'est qu'il n'y a vraiment aucune configuration de lecture. C'est-à-dire, l'écriture ne configure pas la lecture. Il y a notamment l'utilisation d'un certain nombre d'éléments de police de caractère, italique, italique gras, romain normal, etc., qui fait qu'à un moment donné, on se demande si ce n'est pas les histoires qui se suivent et qui sont en fait systématiquement interrompues par d'autres histoires. Ce qui fait qu'on peut tout à fait décider de le lire d'un trait, ou décider d'en lire quelques pages par-ci, par-là, un peu comme de la poésie, ou on peut décider, par exemple, moi je sais que j'ai essayé ça, et ça marche assez bien en fait, de lire uniquement les passages en italique gras. On prend le premier passage en italique gras, puis on va au suivant, et on ne lit pas le reste. Et c'est une autre manière de le lire, je ne sais pas si c'est une des configurations souhaitées par Franck Etienne, mais voilà, c'est pour dire qu'en tout cas, ça laisse une énorme liberté au lecteur. Cette œuvre qui apparemment, comme ça, est extrêmement formatée, extrêmement singulière, donc qui marque l'individualité de son auteur, je trouve laisse finalement une formidable liberté au lecteur. C'est une très grande leçon de démocratie, finalement. Un des volumes des Métamorphoses, c'est le troisième tome des Métamorphoses de l'oiseau schizophone, et ça s'appelle « La méduse orpheline », un extrait de « La méduse orpheline », dans lequel il y a tout d'abord un paragraphe qui est présenté en romain, puis une suite qui est en italique gras, puis à nouveau du romain, etc. Corps gorgé de spumeil. Une voix, montflucée de velours, loubéluca la dourelle, fraîchement allumée. Lourécuse bascula vers la mougrache, dégamboula plusieurs fois avant d'aller choir dans le Counarège, pour s'éteindre en grésillant dans la magatume crabuchée de Pachyrave et de Péladume. L'abéance éclatée d'une impossible horloge, une langue énorme au fond d'un précipice. Le monde, position clé de l'ombre sœur avec un trou sensuel, le compas de comparaison se disloque hors du clavier de la raison. Pour un déguis de vie, un regain d'énergie, l'érotisme renaît au cliquetis des armes. Les clitoris fleurissent à l'orée du combat. Je n'ai pas eu besoin d'ouvrir les yeux pour voir. Décortiquant les ombres, j'ai flairé la lumière. L'obésité de l'oie, sous les doigts magouillards de la supercherie, subvertit le royaume de la fornication. Je me suis retourné de fatigue et d'ennui dans mon lit de combat, je m'en souviens encore. Rituel initiatoire des Kansos frénétiques, une migration d'oiseaux, l'envol sacrificiel, la fumée expiatoire, pour conjurer la mort des libellules nuptiales. Mon double, désemparé, fenêtre ouverte pour une attente. Un feu de fer s'élève d'une cruelle furie. Un long chemin s'éveille à la glorieuse musique du serpent Yanvalou. Nos voix restituées à la lumière, passage explosif, vent cheval amoureux aux confins de l'extase, guérir par la répétition du désir, nothing académique au clair de lune, Jesus and my love in the night, mes joyeuseries ardentes et ma rage érotique. Le Makayagondo, roi du Kayamagan, s'en allait guerdillonner les latus du Cicador, mordusant le Chimaragon des Géliports, une fabrique de faussos en un faisceau de feu. Dans l'interstice d'un mot, le suc et la musique du rêve. L'agir exagéré comme une provocation. Il arguinolait la mérandine bleue et la fièvre électrique de son sexe. Il y a un roman qui est ultra vocal, qui est écrit de la même manière sur une alternance de romain et d'italique, donc avec des dispositifs textuels assez étonnants quand même, et qui est beaucoup moins néologique, donc qui est beaucoup plus facile à lire d'un certain point de vue. De quel instrument jouent les maringouins par glissade dans le labyrinthe? Et d'où vient que leur musique s'infiltre ensuite à travers nos viscères? L'agacement, l'agitation au pavillon de l'oreille pendant le rituel. Jambes croisées sur tes chevilles. Te souviens-tu de la chenille au creux de ton nombril? Tout le tressaillement dit que noire et fine et la vrille qui pénètre par l'oreille. Les maringouins se nourrissent de sucs végétaux. Corps grêle, ailes diaphanes, ils sont munis d'un appareil buccal et suceur. La femelle hématophage enfonce profondément sa trompe dans le tégument de sa victime et lui injecte une salive venimeuse renfermant des germes pathogènes. Dans notre milieu, et à l'époque où nous vivons, nous détestons particulièrement les anophèles, cohortes dangereuses qui bougent au-dessus des mares stagnantes. Les surfaces boueuses s'encroûtent peu à peu de limon verdâtre dans l'obstination de la vibrance et le poison du paludisme. Frêle petite bête, de quel instrument joue-t-elle toute la nuit dans les coins? La mort bourdonne au-dessus des lacs vaseux. Nous expérimentons l'abîme, la solitude. Brume qui s'épaissit, et puis ténèbres. Alors, nous frissonnons d'épouvante à l'insinuante musique des moustiques animant le bal nocturne des fanatiques de Mac Abre. Ça, c'est tiré donc de Ultra Vocal. Ultra Vocal, qui est un texte de 2004. Ultra Vocal. Et c'est pareil, c'est publié en France, chez Ebuck. Dans le passage que j'ai lu, c'est une stratégie narrative pour parler de la malaria, en fait. Hein, de la malaria dans le cadre du roman, dans la manière dont l'intrigue évolue, avec une importance nette de la malaria. Et donc voilà, le choix, c'est d'insérer en fait presque des poèmes en prose dans le cadre du récit. Mais c'est des poèmes en prose qui déjà utilisent peu de néologismes, donc je pense que ça déconcertera moins les...
La langue créole, la langue française, lexique créole français. Donc des mots haïtiens. Et voilà, alors comment vous avez choisi le juste dosage, entre guillemets?
Ça n'a pas été simple, ça a été un travail de longue haleine pour ne pas, justement, que trop de créoles contaminent le français, mais il fallait la présence du créole pour donner en fait l'authenticité à ces voix. Et ça n'a pas été simple. Donc, c'est un travail d'écriture, quoi, voilà, pour faire cohabiter ces deux langues, oui.
À quel lecteur se destine en fait le lexique qu'on trouve à la fin et l'arbre généalogique ?
À tous lecteurs francophones, qui ne sont pas forcément des Haïtiens. Je souhaite que des Africains lisent le livre et avec le lexique puissent comprendre, que des Français lisent le livre et le comprennent. Tout lecteur francophone. Les Haïtiens n'ont pas besoin du lexique. Mais je ne veux quand même pas restreindre mon public, de lectorat, au seul public haïtien.
Je ne pense pas que ce soit une obligation d'aller chercher ces informations pour lire votre roman.
Eh bien, moi, j'en ai discuté avec mon éditrice, je me suis dit, est-ce que ça va faciliter? Elle me dit, on ne sait jamais, tu le mets, mais beaucoup de gens ne vont pas au lexique. Ils lisent le livre avec la musique des mots, et ceux qui sont plus curieux vont voir. Ceux qui sont intéressés peut-être à l'étymologie des mots, ou à des choses comme ça. Mais on n'a pas besoin du glossaire pour lire le livre, pas du tout.
Non, peut-être qu'il faut se laisser porter.
Par la musicalité et les sonorités qui font partie finalement du paysage. C'est pas seulement le bruit de la mer qu'on entend ou bien le bruit du vent dans les feuilles, mais il y a aussi ce que les gens disent. Oui.
Voilà, et je pense aussi peut-être d'accepter de lire le livre sans forcément aller chercher un sens très précis. C'est de voir aussi la part d'universel qu'il y a dans votre écriture.
Tout à fait, tout à fait. Et quand je le disais tout à l'heure, moi j'ai retrouvé du Faulkner, du Caldwell, les mémoires du paysan bas breton que j'ai beaucoup aimé, et du Garcia Marquez.
Oui, alors ça c'est des stratégies qui sont très différentes en fonction des écrivains.
Guillaume Singel.
Dans le cas des écrivains africains aussi, mais les écrivains de la Caraïbe. On trouve vraiment les deux stratégies. Pour prendre un autre grand modèle, je pense, de... grand ancien de l'écriture pour les auteurs des Caraïbes, George Lamming, qui est un auteur de langue anglaise, dont le grand livre In the Castle of My Skin contient un certain nombre de termes autochtones ou de termes en langue étrangère, lui avait fait le choix de ne pas mettre de lexique. Donc il y a des auteurs qui choisissent de mettre un glossaire ou un lexique et d'autres qui choisissent de ne pas le faire. Ce qui correspond à des stratégies différentes. Ceux qui ne mettent pas de glossaire ont tendance à reprocher à ceux qui mettent un glossaire de très évidemment cibler un lecteur européen, français, etc. Ceux qui mettent un glossaire expliquent qu'ils veulent toucher le plus large public, que ceux qui connaissent les mots n'ont pas besoin du glossaire et que ceux qui qui ne parlent pas telle ou telle langue, qui ne connaissent pas le créole, par exemple dans le cas de Yannick Lins, pourront quand même accéder à la même quantité de sens. Bon, c'est une question qui n'est pas résolue. Hein. Chaque romancier, je l'espère, fait comme il veut. J'espère que ce n'est pas toujours les éditeurs qui dictent ce choix-là, parce que je pense qu'il y a aussi des choix éditoriaux parfois. Oui, c'est une stratégie qui est assez fréquente. Hein. Il y a une romancière réunionnaise, Monique Agénor, qui, à ma connaissance, ça fait longtemps que je ne l'ai pas relue, j'avoue, mais il y a des pages entières dans lesquelles, très honnêtement, si on ne comprend pas les mots, on est embarrassé dans la lecture du roman. Et c'est pas du tout la même stratégie, on va dire, poétique, créative, quantique, que Franck Etienne. C'est dans un cadre narratif beaucoup plus classique, d'un certain point de vue. Et à ma connaissance, mais il faudrait vérifier, mais à ma connaissance, elle n'inclut pas de glossaire. Donc, c'est pas non plus les romanciers qui utilisent peu de mots qui mettent pas de glossaire. Certains utilisent des mots dont vraiment la compréhension, enfin, ou la non-compréhension peut gêner la compréhension globale, et choisissent malgré tout de ne pas mettre de glossaire. C'est un autre rapport, c'est le refus de présenter une œuvre qui a l'air traduite aussi. Le glossaire, la note de bas de page, ça fait traduction aussi, quand on met en français dans le texte. L'auteur joue sur le sens italien du mot blabla, bon, ça c'est de la traduction. C'est pas des œuvres traduites, c'est des œuvres qui sont composées dans plusieurs langues en même temps. Bon, y a un autre élément qui est difficile à apprécier quand on ne parle pas le créole haïtien. On se demande toujours dans quelle mesure les néologismes sont totalement des néologismes, parce qu'il y a un certain nombre de néologismes qui font penser à, on va dire, au néologisme qu'on trouve chez Michaud, par exemple, chez Henri Michaud. Mais certains néologismes ont des consonances quand même très créoles, donc c'est peut-être pas tant que ça des néologismes. Il doit travailler aussi avec les mots créoles et faire des néologismes français à partir du créole. Ça doit jouer aussi. Hein. Donc là, évidemment, il faut accepter de ne pas être un savant, je crois, hein, quand on est face à un texte comme ça. Alors on s'en rend compte de manière beaucoup plus nette dans les textes écrits par des auteurs eux-mêmes bilingues, trilingues, etc. Moi, je suis convaincu qu'il y a effectivement des horizons de lecture différents en fonction du milieu culturel d'origine, du milieu culturel principal d'origine du lecteur. C'est vrai, pour prendre un autre exemple, si on lit Ngugi Wa Thiong'o, le grand romancier kényan, ou si on lit chinois Achebe, le grand romancier nigérian qui est mort il y a quelques années maintenant, selon que l'on appartient à leur culture d'origine ou pas, on va lire évidemment beaucoup plus de choses qu'un lecteur, on va dire, allez, pour simplifier, occidental. Quoi. Donc évidemment, il y a ce côté-là. Mais ça peut se dire de Beckett aussi. Hein. Dans l'invention syntaxique, il y a des éléments qui font penser très évidemment au Joyce de Finnegan's Wake, mais je trouve qu'il va moins loin dans, je pense, dans le délire de la construction polyphonique, polylinguistique que Joyce. Pour en revenir à l'exemple que je donnais, quand on lit Beckett en français, selon que l'on lise l'anglais ou pas, ou que l'on maîtrise bien l'anglais ou pas, ou que l'on soit capable de lire Beckett simultanément, éventuellement dans les deux langues ou pas, on ne lit pas le même texte. Et je dirais réciproquement, un anglophone qui lit Beckett comme un auteur anglophone lambda, sans savoir tout le travail de fermentation permanente dans les deux langues qui se produisait dans l'écriture de Beckett, ben forcément, ne le lit pas de la même manière que quelqu'un qui peut au moins subodorer, deviner ce qui se passe dans le chantier chez Beckett. Il y a des éléments de néologisme qui semblent hériter du surréalisme, donc on va dire du surréalisme français pour faire vite, mais il y a aussi tout un côté de toute évidence inspiré par une esthétique créole, aussi une créolisation de la parole, comme elle a pu être théorisée par Édouard Glissant, par exemple. Et j'ai envie de dire qu'il ne choisit pas, il ne nous permet pas de choisir. À savoir, il n'est pas créole ou néologique, créole ou innovateur. Il est les deux. Il est innovateur par la conflagration un petit peu de ces différentes esthétiques.
Je crois que c'est propre à tous les écrivains antillais et africains en général.
Magali Renouf.
C'est quelque chose qui est très récurrent parce qu'ils n'ont pas... Ils n'ont pas dans le français forcément les mots qui permettent d'exprimer ce qu'ils ont à dire. C'était ce que faisait, enfin je sors de Haïti, mais c'était ce que faisait Amadou Kourma, un des premiers à avoir inauguré ça dans l'ère francophone, de retranscrire le français en malinqué. Donc plutôt le procédé inverse, puisqu'il voulait rendre justement la pensée malinquée, ce qui est impossible si on prend les expressions françaises. Et il a été beaucoup critiqué, surtout par les Français qui se sont sentis attaqués pour leur langue. Il a pratiqué ce qu'on appelle la malinquisition du français. Et je pense que c'est nécessaire à tout écrivain qui n'écrit pas dans sa langue maternelle, ou alors d'être complètement adapté à l'univers français, en l'occurrence, puisqu'ils veulent réaffirmer quelque part leur culture. Ils sont obligés de passer par cet intermédiaire, d'imposer aussi leur langue et leur façon de penser. Après, c'est mon simple avis.
Un roman français, francophone ou français? Comment votre livre a été lu et perçu en Haïti, sachant qu'il a été nommé roman français?
Oui, c'était très drôle parce qu'ils me disent comment. Alors les amis qui sont en Haïti me disent comment, enfin, tu n'es pas française. J'ai dit oui, mais je pense que les gens n'ont pas encore compris qu'il fallait modifier un certain nombre, en fait, d'appellation des choses, parce que le monde a évolué. Que, non, j'écris en français, mais je ne suis pas française. Mais jusqu'à présent, les romans, c'est comme aujourd'hui en Haïti, on parle de la littérature nationale haïtienne, elle n'est plus ce qu'elle était au 19e siècle. Elle est faite en anglais, en français, en créole, en espagnol. Donc c'est le monde qui évolue, il faut savoir s'adapter. Voilà.
Français doit pouvoir être compris aussi comme roman en français. Dans un contexte qui a été celui du grand débat sur l'identité nationale, etc., enfin, moi, je ne peux pas m'empêcher d'y voir une déclaration politique aussi, de politique linguistique. C'est-à-dire, roman français, c'est français parce que je dis que c'est français. Et si je me réclame de la francité, ben, j'en fais partie, ou ce texte en fait partie. Ben, c'est vrai que les écrivains, les écrivains africains par exemple, très souvent refusent d'être qualifiés d'écrivains malgaches ou d'écrivains nigérians, et préfèrent qu'on dise d'eux qu'ils sont écrivains, sans préciser. Bon, la relation évidemment d'un certain nombre de lieux de l'écriture en langue française, la relation avec la métropole est encore plus problématique. Cette question de la langue est une question centrale. C'est la langue qui fait le texte. Hein. C'est pas la définition nationale de l'écrivain qui fait le texte. Beckett, il est écrivain français, donc il écrit en français.
D'ailleurs, Yannick Lahens, son roman Bain de Lune, donc, est roman français.
Elle a de la chance, je dirais. C'est-à-dire qu'elle a été reconnue par la France. C'est quelque chose de très délicat maintenant de classer justement ces auteurs. Il y a tout un débat, je crois que c'est vraiment très actuel. Et en même temps, on est très en retard sur le monde anglophone, justement, sur cette question. De savoir que faire de ces auteurs antillais et africains qui écrivent en français. Personnellement, je ne vois pas pourquoi on veut absolument les mettre à part et mettre littérature francophone pour les séparer des auteurs français qui sont eux-mêmes francophones, en somme. Je crois qu'il y a une recherche de reconnaissance de la France de ces écrivains. Et il y a un problème, c'est comme Marine Diaye, qui, elle, est née en France, mais elle est africaine. Donc, globalement, les gens la mettent en littérature francophone, alors qu'elle se bat pour être reconnue comme auteure française, puisqu'elle est française. Et je sais qu'il y avait eu tout un mouvement qui s'était créé pour mettre en place ce qu'on appelle la littérature monde, qui permettrait de regrouper sous cette appellation tout écrivain qui écrit en français, quelle que soit sa nationalité. Puisqu'apparemment, si on n'est pas français, on ne peut pas être auteur français. En même temps que même si on est français mais noir, on ne peut pas être auteur français non plus. C'est très compliqué, mais je pense qu'il y a vraiment il y a quelque chose à faire sur ce plan-là. Même dans les bibliothèques, je ne sais pas pourquoi, certains auteurs ou critiques sur des auteurs comme Senghor ou Césaire, donc ils sont très connus, donc ils sont classés dans les critiques littérature française, etc. Mais on a quand même un rayon littérature de nulle part et d'ailleurs, où ils mettent, entre autres, donc, la littérature francophone d'auteurs arabes ou Alain Mavancou, par exemple. Bon. Et c'est une classification un peu étrange qui révèle, je crois, justement, où on en est avec ces auteurs. Très loin.
Est-ce qu'il y a un passage que vous aimeriez faire entendre?
Passage sur le service qu'ils rendent au Dieu, le blanc des robes, jusqu'à vous verrez.
Eh bien, parfait, alors je lirai avec grand plaisir.
Merci beaucoup.
Le blanc des robes faisait ressortir l'ébène des peaux, la joie savante, antique, de ses visages, comme leur profondeur de nuit. Et puis, nous étions déjà dans l'attente de cette obscurité du dehors. Cette masse sombre des arbres appuyée contre les ténèbres qui bientôt s'accorderait avec les silences dormants au fond de nous. Et tout se réveillerait, nos peines, nos joies, nos faims, nos colères. Au cœur d'anse bleu, dans la nudité d'un hameau, un autel était dressé. Par-dessus, une nappe blanche. Des lampes tremblaient aux quatre coins du péristyle, jetant des ombres sur la petite foule assemblée là, et venue demander aux dieux de laisser loin le malheur, de le pétrifier et de les approcher, eux, de les habiter. Les Hounsi ne cessaient d'aller et venir, chargés de paniers et de jattes, de fleurs, de gâteaux, de pigeons, de bananes, de patates douces, d'oranges et de riz, de toutes sortes de nourritures et de bouteilles d'alcool, anis, trempé, de sirop d'orgeat, qu'elle plaçait devant l'hôtel central, tout près du caisson en bois, la barque d'Agoué, fabriquée par Nélius. Orville acheva de tracer un VV au pied du poteau mitant, et, sans nous faire signe, s'assit sur la chaise au pied de l'hôtel d'Agoué. Érylien commença les prières catholiques. en versant odieux dans la poussière de l'eau bénite subtilisée à la barbe du père Bonin. Il sonna la cloche tout au long de la priée des yeux. L'ange du Seigneur dit à Marie qu'elle concevra un Jésus-Christ. Après Érylien, nous avons tour à tour scandé les mots « Seigneur, Marie, Saint-Esprit » dans les aigus et les graves du français, dans les sonorités sacrées d'une litanie chrétienne. Orville ne comprenait pas tous les mots, nous non plus. Mais cela importait peu pour un Dieu aussi lointain et aussi inaccessible aux chrétiens vivants. Après tout, lui et ses saints nous avaient fait échouer sur cette terre et nous voulions juste qu'il nous ouvre le chemin vers la Guinée. Holmen ne lâchait pas son père du regard, sentant chez lui la volonté, cette nuit-là, de braver le monde et, avec l'aide des dieux, de tenir son destin au bout de ses doigts. Orville se retourna et croisa les yeux de sa fille posés sur lui. Il l'interpella exprès, question d'exiger obéissance, d'asseoir son autorité. « Chante mieux les couplets. Tu devrais les connaître depuis tout ce temps. » Holmen tourna son regard de l'autre côté de la salle et poursuivit de toute la force de ses poumons. « Sainte Philomène, Vierge martyre, accordez-nous miséricorde. » Érylien sonna la cloche de plus belle, comme pour appeler les aigus et les graves les plus nasillards de la langue créole. À mesure que d'autres hommes et femmes se joignaient à la mélopée, la voix d'Orville se métamorphosait lentement. Elle se faisait plus sourde par moments, comme tirée de l'arrière-gorge par d'autres. « Trois paters, trois Ave Maria, je crois en Dieu. N'appelle à prier pour signo, n'appelle à prier pour loyaux. Nous prions pour les saints, nous prions pour les lois. » Orville avait saisi la sonne et l'agitait, faisant taire la cloche du sacristain et entamant les sonorités gutturales, nasales du créole. Il chanta, et nous aussi, jusqu'à ce que les voix passent de l'ombre à la lumière, de la chair à l'esprit, jusqu'à ce que la nuit elle-même se penche pour livrer au passage aux dieux africains qui ne tardèrent pas à faire leur apparition. Annoncez ange Nandlo, la dosu miwa, la oe, la oe. Annoncez que les anges sont sous l'eau, en dessous du miroir, vous verrez. Vous verrez. C'était un extrait de Bain de Lune, choisi par Yannick Lahens, qui a obtenu le prix Femina pour ce dernier roman.
Est-ce qu'on peut dire alors que Haïti est un monde, un petit monde, une image du monde entier? Est-ce que Haïti contient le monde entier?
Tous les jours, je le dis. À partir d'Haïti, je comprends le monde. C'est vraiment pour moi le microcosme. Quand je suis chez moi, j'ai le quart monde à droite, c'est le bidonville derrière. Et de l'autre côté, j'ai un immeuble avec... antenne parabolique, ascenseur, où il y a la bourgeoisie, les ONG, etc. Donc, et quand j'allume la télévision en Haïti, j'ai toutes les chaînes du monde. Donc à partir d'Haïti, je peux comprendre ce qui va se jouer. Par exemple, les enjeux écologiques, la vulnérabilité de plus en plus forte des plus pauvres, avec les changements climatiques, la question de la dette, la question de l'enjeu de l'éducation. Oui, je comprends tout ça.
Ainsi s'achève cette émission autour de la littérature haïtienne. Merci à Magali Renouf pour sa présentation de Jacques Stéphane Alexis, à Guillaume Singal pour sa présentation de Franck Etienne, à Yannick Lahens et à la librairie La Boîte à Livres. De tour. Laissons le mot de la fin à Magali Renouf, qui assure ainsi la clôture de cette émission.
Franck Fouché est dans un texte qui s'appelle « Message ». Nous avons un pays étrange et merveilleux, un pays si merveilleusement étrange qu'il ne se résigne pas encore à mourir, malgré que sans pitié, sans pudeur, les jouisseurs éternels aient sucé et pompé son sang généreux. Nous vivons vraiment sous un ciel d'étrangeté et de miracles.
Le Daï vous dit à bientôt. Et d'ici là, n'oubliez pas que la culture, c'est comme la confiture. Il y en a pour tous les goûts.